commencer. Nous sommes le lundi 6 mars et je me rends de bon matin dans une classe de l'Institut Émile Grison, une école technique et professionnelle qui est située sur le campus du CERIA à Anderlecht.
Gardez du coup quand même ces feuilles.
J'ai rendez-vous dans la classe d'Olenka Tchernovsky. Elle est professeure d'histoire, mais aussi de philosophie et de citoyenneté. Et depuis le début de cette année, elle a décidé d'intégrer ChatGPT dans ses cours.
Et pour le cours de philo, en fait, le dernier cours de philo qu'on avait fait, c'était sur ChatGPT et l'intelligence artificielle. Vous vous souvenez ?
C'est quand elle a découvert elle-même l'outil, c'était pendant les dernières vacances de Noël, qu'Olenka Tchernovsky s'est dit que face à un chatbot avec de telles potentialités, il allait être très difficile en tant que prof de faire semblant de rien.
Mais donc moi quand j'en ai entendu parler, forcément ça m'a beaucoup intéressée, j'ai commencé à tester, à poser plein de questions à ChatGPT comme je pense tout le monde le fait dès qu'on découvre cette application. Et évidemment moi tout de suite je me suis dit quel impact ça va avoir en classe. Et donc en fait je me suis dit il y a quatre possibilités, quatre attitudes que je peux adopter. Soit je fais comme si ça n'existait pas. Soit j'ai plus l'aptitude d'interdire, j'ai entendu que, je crois que c'est les écoles de New York qui ont interdit, je vois pas très bien comment c'est possible, mais voilà, pour moi c'est la deuxième attitude possible. La troisième, c'est en fait d'explorer un peu toutes les pistes pour empêcher en fait que ChatGPT envahisse trop l'espace, et c'est plutôt alors s'inquiéter de quels sont les logiciels pour repérer les utilisations de ChatGPT. En gros, c'est pour empêcher son utilisation et surtout débusquer son utilisation. Et la quatrième option, c'est de se dire, voyons plutôt les opportunités que ça apporte. Et vous l'aurez compris, moi j'ai plutôt préféré la quatrième option.
En fait, je ne sais pas si sur TikTok, souvent ils apparaissent. Tu vas taper une recherche et il va te répondre comme si c'était une vraie personne.
Et du coup, ChatGPT s'est carrément invité en classe.
Sur Google, tu vas taper, il va juste te mettre le gros carré là avec les réponses où tu dois chercher dans les sites, il va directement t'expliquer.
La première chose que j'ai faite, c'est de leur faire découvrir. Parce qu'en fait, certains en avaient entendu parler, mais pas tant que ça. Et donc, dès la rentrée en janvier, on a fait tout un cours où on l'a découvert. Et donc, j'avais mon ordi, on projette sur l'écran, et on s'amuse à poser des questions. Et donc là, les élèves posaient des questions. Les premières questions, souvent, c'était des questions très Wikipédia, genre, quelle est la capitale de... ou traduire un texte en Wolof, et les élèves qui parlent Wolof peuvent vérifier si ça correspond, des choses comme ça. Et puis, je leur quand même dit, en fait, ChatGPT peut même créer des contenus qui n'existent pas sur Internet. Et donc là, on a demandé d'écrire un poème, ce qui a beaucoup plus rédigé une lettre de motivation. Ça les a beaucoup impressionnés parce que c'est quelque chose qu'ils sont amenés à faire pour les jobs d'étudiants ou pour les stages. Et donc, je me souviens quand tout à coup, ChatGPT commence à écrire sa lettre de motivation. Beaucoup impressionnés parce que c'est quelque chose qu'ils sont amenés à faire pour les jobs d'étudiants ou pour les stages. Et donc, je me souviens quand tout à coup ChatGPT commence à écrire sa lettre de motivation, il y a un élève qui me dit, mais moi ça me met 3 jours pour écrire une lettre comme ça, avec en plus des fautes d'orthographe, et ici c'est un truc impeccable, c'est presque même pas crédible d'ailleurs. Bref, mais donc ils étaient quand même assez enthousiastes par rapport à toutes ces applications. On s'est aussi amusé à tester un peu ChatGPT sur les questions plutôt éthiques. Je leur ai permis de poser des questions non éthiques. Par exemple, comment enterrer un corps ? Non, comment camoufler un corps ? Comment cacher un corps ? D'autres, c'était rédiger une chanson raciste, par exemple. Et alors là, c'est intéressant, parce que ChatGPT, il répond, il dit non, c'est pas une très bonne idée de cacher un corps, il faut prévenir la police. Et puis non, je peux pas rédiger une chanson raciste parce que le racisme, c'est pas bien, et que moi, je valorise les réponses, les contenus inclusifs, etc., etc. Mais du coup, ça a posé toute une série de questions. C'est un peu, qui décide de ça ? Et alors, en fait, donc tout ça, c'était la découverte. On découvre, on s'amuse, on rigole. Et alors, à la fin et donc, on découvre à la fois les opportunités, mais je les ai aussi invités, forcément, à poser des questions. Et donc là, la tâche, c'était, vu que c'était au cours de philo, c'était poser des questions philosophiques que pose l'intelligence artificielle.
Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait remplacer nos professeurs ?
Moi, ma question, c'est quelle est la réelle différence entre un être humain et une intelligence artificielle ?
Est-ce qu'elle a vraiment réponse à tout ?
Où va-t-on avec cette technologie ? On va finir comme des feignasses à même plus pouvoir chercher nous-mêmes des informations.
Et sur votre rôle d'enseignant, d'enseignante, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu ça? Parce que, quelque part, on peut se poser la question de, tiens, est-ce que ça vaut encore la peine d'ingurgiter la matière à retenir avec de la mémoire alors que toute cette information est disponible? Sur certains apprentissages, type la lettre de motivation, est-ce qu'il faut construire l'apprentissage différemment maintenant qu'on a un logiciel d'aide à la rédaction qui peut faire déjà une bonne partie du travail? Est-ce que vous vous êtes dit que ça allait changer votre métier de prof?
Donc clairement, je pense notamment au cours de français que ça doit vraiment interroger l'apprentissage des compétences rédactionnelles que ça va orienter les profs de français par rapport à ça. Moi, ce que je me suis dit, déjà je me suis dit que ça pouvait moi m'aider en fait. Alors j'ai pas encore vraiment exploré non plus, mais pour je sais pas faire des résumés de textes, créer des questions. Enfin moi il se fait aussi que j'ai pas envie qu'une machine fasse le métier que j'aime faire. Moi, j'aime bien préparer mes cours, c'est une part de créativité, j'aime bien réfléchir, anticiper, donc j'ai pas spécialement envie de confier ça à l'intelligence artificielle, mais je peux m'imaginer que dans l'avenir, ce soit possible. Donc ça, c'est pour mon utilisation à moi en tant que prof. Maintenant, par rapport à l'usage que les élèves puissent en faire, moi, en tant que certainement prof de philo et citoyenneté et prof d'histoire, ça me renforce, ça me conforte dans l'idée qu'il faut vraiment travailler l'esprit critique, ce qu'on fait déjà, mais qu'il faut vraiment accentuer davantage, c'est-à-dire s'entraîner à confronter les réponses, à les vérifier. Ça, c'est par rapport aux réponses que ChatGPT peut apporter. Mais, et alors ça, c'est quand même un truc en particulier spécifique au cours de philo qu'il faut vraiment davantage exercer, c'est apprendre à poser les bonnes questions. Parce que ça, je pense que c'est une compétence qu'on n'a pas tellement développée. Or, puisque ChatGPT peut apporter plein de réponses, on doit aussi s'entraîner à apporter les bonnes questions. Que ce soit des questions éthiques, philosophiques, mais aussi tout simplement parfois formuler précisément ce qu'on cherche. Ici, on a
commencé à poser... Pour autant... Olenka Tchernovsky ne pense pas qu'il faudrait abandonner complètement les apprentissages de contenu, la mémorisation, au motif que maintenant il suffirait d'arriver à bien interroger une machine.
Je pense qu'il faut garder évidemment des contenus, on doit garder une base de connaissances pour garder un peu d'autonomie pour le jour où l'intelligence artificielle on l'a pas sous la main, donc on doit quand même continuer à penser par soi-même, à avoir des connaissances et des compétences, mais par ailleurs on doit aussi être outillé pour utiliser l'intelligence artificielle au mieux. En fait, ces questions-là, je pense qu'elles se sont posées de tout temps. Hein. Enfin, je n'étais pas là à l'époque de l'apparition de l'imprimerie, mais j'imagine que la question s'est posée. Mais j'imagine aussi, quand les profs de maths ont vu apparaître les calculatrices, la même question s'est posée. Au fait, à quoi ça sert d'apprendre à calculer si de toute façon une calculette peut le faire? On s'adapte. Pareil, quand Wikipédia est arrivé, quand en plus les smartphones sont arrivés, tout le contenu Wikipédia, on l'a sur soi. À quoi ça sert? Forcément, on évolue, je pense, avec la technologie.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci.
Et à bientôt.
Oui, merci. Au revoir. Je laisse là la classe de 6e boulangerie de l'Institut Émile Grison pour aller balader mon micro, justement, du côté des profs de français eux-mêmes. Des profs que ça doit pas mal questionner, forcément, d'avoir vu débarquer comme ça ChatGPT.
Merci, Lucien.
Oui, direction moi. Le collège Saint-Guibert à Jean-Blou, où je constate que quelques élèves de Réto ont déjà très bien perçu quelques avantages du robot conversationnel développé par OpenAI.
Oui, clairement, il y a des cours où ça peut faire tout notre travail à notre place.
Genre ?
Une dissertation sur un thème assez précis. Il faut des thèmes assez documentés, parce que j'ai déjà essayé en histoire sur un thème spécifique, c'est plus compliqué, je trouve. La réponse, elle répond pas exactement aux attentes du prof, mais sinon, je trouve que c'est assez complet comme travail.
Et on en parle en classe, ça, déjà, du coup, c'est quelque chose qui s'est un peu invité dans les cours?
Entre nous, oui, mais pas souvent avec les profs, parce que ça peut être vu comme de la triche ou des choses comme ça, voilà.
Et en l'occurrence, c'est le cas? Enfin, je veux dire, ce serait utile pour éventuellement tricher?
Oui, enfin, pas tricher dans une évaluation ou des choses comme ça, mais ça peut nous aider. Enfin, ça fait déjà un texte tout fait, ça sort pas de notre tête.
En langue étrangère, je crois que ça peut aussi très bien passer, parce qu'un oral en néerlandais, par exemple, ça ne produit pas un oral de très haut niveau. Or, pour nous, ça nous fait un énorme gain de temps. Donc moi, si je devais l'utiliser maintenant, ce serait surtout pour les langues...
Parce que ça prémâche un peu le travail, quoi. Il construit déjà un texte qui pourrait être utilisé dans un oral, dans un examen ensuite.
Exactement.
Et du côté de deux professeurs de français du collège, Quentin Lizy et Anne Guillaume, qui sont tous les deux enseignants dans le cycle supérieur, on sent bien que ça va demander de revoir certains enseignements et certaines évaluations pour le futur.
Évidemment, ça va changer des choses. Il y a des travaux qu'on demande aux élèves à domicile qu'on ne pourra plus demander. Une dissertation, par exemple, c'est vraiment le cas. On la fera en classe.
Je pense qu'on va devoir vérifier que les élèves fassent bien leur travail. Et éventuellement, parfois, les conseiller et les aiguiller vers ChatGPT en leur montrant les qualités et les défauts que peut avoir l'outil.
Il y a ça, de se dire ça existe, ça sert à rien de faire semblant de rien et peut-être plutôt l'intégrer plutôt que de le mettre de côté ou de l'interdire.
Tout à fait. Et d'ailleurs, moi, j'en ai déjà beaucoup discuté avec mes rétos. Je leur ai demandé s'ils avaient déjà utilisé. Ils ont utilisé pour le cours de langue, notamment. Mais il y a des travaux, par contre, où je suis presque certaine qu'ils ne pourraient pas l'utiliser parce que ce qu'on leur demande de faire, ChatGPT ne pourra pas le faire. Je prends un exemple. Ils devaient analyser un texte du 18e, prouver que ce texte appartenait au 18e. S'ils posent la question à ChatGPT, ils auront une réponse, mais pas nécessairement celle que moi j'attends parce que je leur ai donné les caractéristiques du 18e que je veux retrouver dans leur analyse. Donc, là, je pense qu'il y a quand même... Hein, tu...
Tout à fait. Je pense que c'est à nous aussi, de, dans nos consignes, réfléchir à suffisamment être précis afin que la machine ne puisse pas facilement répondre à la question demandée.
Et est-ce que vous ne dites pas aussi, y a des tâches de base qu'on apprenait en français hier sur de la rédaction un peu simple, d'éléments qu'on va utiliser dans la vie courante, ou peut-être que demain, ces tâches-là vont être reprises par une intelligence artificielle et que peut-être c'est d'autres compétences sur lesquelles on va devoir appuyer, qu'on va devoir développer. Peut-être certaines tâches seront moins utiles à apprendre demain, mais peut-être d'autres sur un esprit plus critique, sur la façon de construire un raisonnement, etc.
Oui, je suis... pas d'accord avec cette idée-là, dans le sens où je pense que la maîtrise de base de la langue d'apprentissage qu'est le français est absolument indispensable pour aller chercher d'autres compétences par après. C'est-à-dire que l'esprit critique, notamment, est une compétence qu'on essaie de travailler, notamment ici en option français en 4e, mais dans tous les cours de français de façon générale et dans des tas d'autres cours à l'école. Et je me rends compte vraiment d'année en année que lorsque les compétences de base de lecture et rédactionnelle ne sont pas maîtrisées, l'esprit critique est difficile à acquérir parce que ça nécessite déjà des savoirs et des compétences de base pour comprendre finement un texte. Et donc je pense que ce serait trop facile de se dire il y a des choses qu'on peut évacuer, qu'on ne doit plus apprendre et directement aller vers le plus complexe. Je pense que la maîtrise de la lecture et de l'écriture sont nécessaires pour ensuite aller plus loin.
L'écriture notamment et la formulation d'une pensée, elle ne peut se faire qu'en maîtrisant la langue. Et si la langue s'appauvrit, la pensée s'appauvrit et donc l'esprit critique s'appauvrit et donc on va être submergé par la machine finalement.
Ce que je trouve intéressant au travers de ces deux petites incursions à l'école, c'est de voir que ChatGPT, et à travers lui le principe des modèles de langage, s'est en quelques mois seulement invité dans les cours, et que cela suscite déjà beaucoup de débats, de réflexions chez les profs comme chez les élèves. Chacun, chacune, essaye de discerner les avantages, les opportunités, les limites et les risques. Et puis ce que je retiens aussi de ce passage à l'école, mais également du témoignage reçu de nombreux enseignants, c'est que ChatGPT, même s'il va sans doute pousser à repenser certaines évaluations, s'il va venir prémâcher le travail de certains élèves et de certains profs dans telle ou telle matière, est aussi vu comme une opportunité de développer mieux l'esprit critique, de pouvoir aller plus loin dans l'approfondissement de certaines compétences. Et puis, ChatGPT fournit aussi une porte d'entrée ludique à des questionnements plus philosophiques sur notre rapport à la machine et sur ce qui continue fondamentalement de faire notre singularité d'être humain. Mais de tout cela, si vous voulez bien, on en reparlera en fin d'épisode quand on ira chercher quelques clés pour répondre aux questions philosophiques soumises par les élèves endorlectois. Là, tout de suite, on prend la direction de Charleroi.
On a convaincu tout le monde de s'y mettre. Il y a plus de 50 personnes.
en plein cœur d'une ville en travaux, j'ai rendez-vous avec le directeur de la Cité des Métiers. Il s'appelle Olivier Marchal et il m'attend au milieu d'un grand chantier dans un bâtiment qu'il a fallu escalader en passant même par un échafaudage.
Alors ici, on est au cœur de moteur de la Cité des Métiers de Charleroi, c'est-à-dire l'espace d'orientation tout au long de la vie, où une fois que ça sera ouvert, un peu comme à Liège, un peu comme à Namur ou à Bruxelles, tout un chacun, quel que soit son bagage ou son parcours, pourra venir chercher de l'info sur les nouveaux métiers, sur les formations qui mènent justement aux métiers du futur et se qualifier, on espère, pour un emploi de qualité.
Un lieu qu'il faut encore un peu imaginer, à ce stade, au milieu du béton, des électriciens qui installent leur câblage, 8 étages de la taille chacun d'un terrain de foot où demain se croiseront école, formation continue, promotion de nouveaux métiers. Un lieu qui aura pour but de penser de manière transversale la formation au début de la carrière, mais aussi la reconversion au fil de celle-ci à mesure des chamboulements incessants que connaît aujourd'hui le marché de l'emploi.
Tout à fait, c'est vraiment l'enjeu, on s'aperçoit, on doit faire le deuil, on ne peut pas maîtriser le marché de l'emploi, on ne peut plus le planifier, on ne va pas décider de ce qui arrive dans le monde. Et donc effectivement, il y a tellement de changements que des structures comme la Cité des Métiers, comme le campus hybride de Charleroi Métropole, mais sont des structures qui vont accompagner tout au long de la vie les citoyens. Et ça, c'est une vraie réponse politique et institutionnelle, en disant on ne sait pas encore tout des métiers du futur, mais en tout cas, on va être là à chaque fois pour vous accompagner pour chaque transition. Et ça, c'est l'enjeu parce qu'on va avoir énormément de gens qui vont devoir transiter d'un métier à l'autre, d'une compétence à l'autre. Et aujourd'hui, dans le monde du travail, il y en a beaucoup qui souffrent de disqualification intérieure. Ils se sentent plus compétents, ils sont dépassés par les nouvelles choses qui arrivent. Les secrétaires, à un temps, ont été dépassés par l'arrivée de Word ou se sont sentis remplacés par Word. Mais maintenant, ça va, on a réinventé le métier avec elles. Ici, on va réinventer, on va former, on va accompagner chaque citoyen. En tout cas, on va faire notre possible.
Bon, nous, on va aller maintenant se préoccuper un peu de ce que l'intelligence artificielle et le modèle de langage comme ChatGPT peut changer justement dans les métiers pour demain.
Et ça va faire trembler beaucoup de gens des métiers de l'abstrait et du langage, oui, en effet. On va ressortir par la nuit. Ça va si on marche 5 minutes jusqu'à
peu près ? Oui, c'est parfait.
Et de cela, on va aller en parler un peu plus au calme dans les bureaux actuels de la Cité des Métiers de Charleroi, un peu plus bas dans la ville. Et je demande d'abord à Olivier Marchal, qui est sociologue de formation, quelle a été son impression, ce qu'il s'est dit, lui, lorsqu'il a testé pour la première fois un outil comme ChatGPT.
Alors, au risque de faire bisquer mes patrons, je me suis dit qu'il serait parfait pour rédiger mes rapports d'activité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je lui posais 2-3 questions sur les enjeux de la Cité des Métiers, je voyais qu'il avait du texte, qu'il avait de la ressource, c'était cohérent, c'était sympa. Après, quand j'ai creusé un petit peu, je pense que beaucoup l'ont fait, et la presse s'en est fait le relais, il est pas très malin, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il peut dire, ce qu'on l'a autorisé à dire avec tous ses filtres, et il dit aussi ce qu'il peut dire en fonction des ressources qu'il a. Et ses ressources, en fait, sont limitées, même si elles sont immenses. Donc il a dit aussi beaucoup d'âneries sur d'autres sujets.
Et donc, vous qui avez forcément une vision sur les métiers actuels, les métiers de demain... Pour le moment, dans l'état actuel de développement et avec aussi ce qu'on peut déjà percevoir des possibilités d'amélioration dans les années qui viennent, vous le placez où dans les métiers actuels, dans la complémentarité que ça peut avoir avec certains métiers? Comment est-ce que vous le situeriez aujourd'hui?
Alors je le situerais, moi je le considère comme un robot neuronal, c'est-à-dire que la robotisation elle a déjà eu lieu sur la partie mécanique. Les robots mécaniques ont déjà renforcé le travail de tout ce qui était ouvrier qualifié, production physique. Alors maintenant on est dans un domaine qui est le domaine du texte, en fait la production texte, qui est un domaine immense, des journalistes, des professeurs, des écrivains, mais aussi des comptables, hein, on est sur des chiffres, etc. Mais je le considère aujourd'hui dans les capacités que j'en perçois, n'étant pas expert en informatique, comme un compagnon, comme un aide de camp qui va permettre de faire un certain nombre de tâches limitées et très conscrites. Mais au final, on va toujours avoir besoin, en tout cas les comptables, les juristes l'ont déjà dit dans la presse, dans pas mal d'articles qui sont sortis, il y aura toujours besoin d'une relecture, d'une validation, y compris dans les traductions.
Et Olivier Marchal pointe une série de métiers, de secteurs où ChatGPT pourrait venir assez vite s'imposer comme une sorte d'assistant aux côtés de l'humain.
on va pouvoir faciliter la rédaction de mails. Moi, ce que j'observe très très souvent, quand je regarde un petit peu, j'analyse le monde de l'emploi aujourd'hui, je veux dire le monde qui produit des mots, il y a beaucoup de choses qui sont automatisables. La programmation de sites internet, tout à fait automatisable, avec des commandes simples, on va pouvoir demander de créer une page. On va pouvoir aussi demander de créer un rapport d'activité, en fait, avec des fiches projet, en rajoutant du verbe entre eux. Mais ça pose en fait plein de questions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fabriquent des PowerPoint à longueur de journée, un peu, dans tous les secteurs où il y a du bullshit jobs. Et donc, pour moi, ça va rentrer violemment en percussion. En tout cas, ça va nous interroger, nous, sur est-ce que, en fait, j'aurais pas mieux à faire que de produire du texte quand ChatGPT peut le faire et moi le relire. Et donc, voilà, en tout cas, sur la partie textuelle. Après, il y a d'autres fonctions. Ils se sont amusés récemment, des experts RH, ils se sont réunis et ils ont classifié. Ils ont dit, par exemple, que les juristes, les comptables, les pêcheurs, étaient des fonctions qui étaient plus en danger que d'autres. Mais on a vu dans la presse que j'ai feuilleté dans le cadre pour préparer ce podcast, mais que les juristes disent non, en fait, parce que ChatGPT n'est pas intelligent. Il ne sait pas lire entre les lignes. Il sait lire que les lignes. Et la loi, et le travail de juriste est un travail d'interprétation, parce qu'en fait, on est d'abord des individus, notre intelligence est interprétative. Et donc, on n'est pas littéral, on est littéraire, en fait. Voilà. Et donc, c'est là où je sens qu'on va pouvoir être aidé, mais que je sens absolument aucune menace.
Pour illustrer ça, j'ai lancé il y a quelques jours un appel sur les réseaux sociaux pour savoir qui, dans son métier, avait déjà testé ChatGPT et pouvait m'en faire une petite analyse critique. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages, parmi lesquels celui d'une juriste, une avocate plus précisément, elle s'appelle Margot Nossan, et elle a fait avec le robot conversationnel d'OpenAI une petite expérience.
Je lui ai posé une question toute simple que j'avais eue déjà dans un dossier qui était déjà terminé et je me suis rendu compte avec grande stupeur que ChatGPT, quand je lui demande de sourcer ses réponses, m'indique qu'il est une intelligence artificielle et qu'il ne doit donc pas sourcer ce qu'il dit. Ça va complètement à l'encontre du principe même d'être un juriste et d'être un avocat. C'est que moi, quand je vais devant le juge et que j'affirme des choses dans mes plaidoiries, si je veux gagner, si je veux que mon client ait gain de cause, je dois sourcer ce que je dis. Je dois dire au juge, voilà, moi je vous donne tel argument qui découle de telle loi ou de telle ancienne décision de justice qui a déjà été prise et qui est reconnue par la majorité.